Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, et nous sommes ensemble aujourd'hui pour une heure d'émission. Au programme aujourd'hui, la date probable de la fin de la mission de la MINUSMA dévoilée. L'Algérie veut réviser son accord d'association avec l'UE, la première centrale à hydrogène africaine verra le jour en Namibie, et la Russie qui rétablit sa présence diplomatique en Libye. Madagascar a proclamé son indépendance il y a 63 ans. Une chercheuse malgache nous dira ce qu'évoque cette date pour elle et comment le 26 juin 1960 a changé la vie des habitants de l'île. Le Zimbabwe vit depuis 20 ans sous des sanctions occidentales. Un activiste zimbabwéen analysera les conséquences néfastes de celles-ci pour ce pays africain. Il y a 20 ans, le footballeur camerounais Marc-Vivien Foé nous quittait brusquement en plein match. Un journaliste camerounais fera le point sur le suivi médical des joueurs de football africains. Les jours de la MINUSMA au Mali sont comptés. Selon une agence de presse internationale, un projet de résolution du Conseil de sécurité déposé par la France indique que la mission de maintien de la paix MINUSMA va mettre fin à sa mission le 30 juin. Le personnel de la mission onusienne déployée sur place devrait quitter le pays dans un délai de 6 mois. Cette sortie par la petite porte de la mission de paix sous l'égide de l'ONU signe son échec. Présente au Mali depuis 2013, elle s'est vue à plusieurs reprises reprocher son impuissance par les populations et les dirigeants maliens. Pourtant, les moyens étaient mis sur la table. La MINUSMA disposait d'un budget annuel de 1,26 milliard de dollars et d'un contingent de plus de 12 000 soldats. Pour rappel, le 16 juin dernier, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, avait demandé le départ de la mission onusienne devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il avait souligné l'échec de cette dernière qui faisait partie, selon lui, du problème. En avril dernier, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à Bamako et dans d'autres villes du pays pour réclamer le départ de la MINUSMA. L'Algérie veut revoir un accord d'association avec l'Union européenne. Ce document, loin d'être gagnant-gagnant, permet aux marchandises européennes d'obtenir des avantages à l'exportation, ce dont ne bénéficient pas les produits en provenance d'Algérie sur le marché de l'Union européenne. Récemment, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a déclaré durant la foire internationale d'Alger que son ministère travaillait sur l'évaluation et la révision de cet accord. Pour le moment, les modalités et les démarches afin de parvenir à ce but n'ont pas été communiquées. Ce n'est pas la première fois qu'Alger exige de revoir le document. En 2015, l'accord avec l'UE avait été réévalué à la demande de l'Algérie, mais les changements apportés n'ont pas semblé suffisants. Un média algérien a rapporté que sur les 10 dernières années, le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures n'a même pas atteint les 14 milliards de dollars, alors que le cumul des importations en provenance de l'UE s'élève à 220 milliards de dollars. Toutefois, l'UE n'est pas disposée à faire des concessions. Le haut représentant de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a défendu cet accord lors de sa visite à Alger en mars dernier. Selon lui, les exportations européennes en Algérie ont reculé de 45% depuis 2015 et que la balance commerciale était en faveur d'Alger. Selon la délégation de l'UE en Algérie, l'Union européenne reçoit presque les deux tiers des exportations algériennes, ce qui en fait le partenaire principal de ce pays. La Namibie souhaite lancer prochainement la production d'électricité à partir d'hydrogène. Le ministre des Finances de ce pays a annoncé la construction d'une centrale à hydrogène récemment. C'est un consortium franco-allemand qui a été retenu par le gouvernement namibien pour réaliser ce projet. L'usine qui sera construite par phase produira à terme 2 millions de tonnes d'ammoniac vert par an. Il sera destiné à des marchés régionaux et mondiaux lorsque le site atteindra sa production à pleine échelle, d'ici à 2030 selon les prévisions. Parmi les futurs clients, on trouve l'Allemagne, mais le gouvernement namibien souhaite exporter vers ses pays voisins, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Botswana. Pour parvenir à ce résultat, Windhoek peut compter sur des ressources en énergie éolienne et solaire de par son fort niveau d'ensoleillement. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté du gouvernement namibien de devenir un pôle d'énergie renouvelable en Afrique et à terme d'être le premier pays neutre en carbone. Pour rappel, la Namibie n'est pas le seul pays africain à miser sur l'hydrogène vert. L'Égypte investit actuellement dans cette énergie décarbonée considérée par certains comme le carburant du futur. La production est entrée dans sa première phase au sein de l'usine d'Ain Sokhna, la première du pays. Des projets de construction de nouvelles usines dans le pays des pharaons sont actuellement sur la table. Moscou est de retour diplomatiquement. Le nouvel ambassadeur de Russie à Tripoli, Haïdar Haganin, a présenté ses lettres de créance au chef du conseil présidentiel de Libye, Mohamed Al-Menfi. Monsieur Haganin a déclaré que la Russie allait maintenant travailler pour renforcer les relations diplomatiques avec la Libye, qui sont traditionnellement amicales. Pour rappel, durant l'été 2014, Moscou a été contraint en raison de la guerre civile en Libye de fermer son ambassade. Durant les 9 années d'absence, la représentation diplomatique a poursuivi son travail depuis la Tunisie voisine. Plus tard, de nombreux dirigeants libyens avaient exprimé leur souhait de voir l'ambassade russe rouvrir à nouveau. Depuis septembre 2022, un groupe de diplomates russes est revenu à Tripoli pour préparer la réouverture de l'ambassade dans ce pays. À la fin décembre de la même année, le président russe Vladimir Poutine a nommé M. Haganin ambassadeur en Libye. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Il y a 63 ans, Madagascar a proclamé son indépendance vis-à-vis de la France. Toutefois, ce processus de libération du joug colonial français a démarré bien avant. Plus de 100 000 malgaches ont perdu la vie lors d'une tentative d'insurrection en 1947, que Paris refuse de reconnaître comme génocide. Le 26 juin, date anniversaire de l'indépendance de ce pays, un défilé s'est tenu en présence du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, dans le stade Barea de Mahamasima, qui était rempli pour l'occasion. Monsieur Rajoelina a adressé ses vœux à ses compatriotes et les a appelés à rassembler leurs forces pour faire rayonner Madagascar. À l'occasion de cette date anniversaire, le ministère russe des Affaires étrangères a salué Madagascar, avec qui la Russie entretient des liens amicaux depuis 1972, date à laquelle les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies. La diplomatie russe a rappelé que l'Union soviétique avait toujours soutenu cette lutte pour la souveraineté et l'économie indépendante de l'État insulaire. Au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique, Lanto Ramae-Farisoa, enseignante-chercheure à l'université d'Antananarivo, est revenue sur la portée de cette date historique et ce qui a changé depuis dans la vie des Malgaches.
Comment cette date a changé la vie des Malgaches et que signifie pour vous cette date ?
La date, le 26 juin 1960, la dépendance a été effectivement proclamée à Antananarivo, à Mamasna, sur le stade, au stade de Mamasna, au centre d'Antananarivo. Et bien sûr, c'était la joie pour le peuple, évidemment, en 1960. Je n'ai pas assisté à cette cérémonie. Mais d'après l'histoire et d'après ce qu'on fête tous les ans, ça fait la joie de tous les Malgaches. Et actuellement, il se passe une grande fête sur le stade de Mamasna, où cette indépendance a été proclamée il y a donc 63 ans. Mmh. Et en parlant de la vie des Malgaches, c'est assez difficile de la qualifier. Parce que si en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de, disons, de la population n'était pas aussi grande qu'actuellement. Et actuellement, il y a des, évidemment, comme dans tous les pays, il y a des problèmes sur tous les plans. Mais on essaie quand même de résoudre ces problèmes. Oui, c'est comme dans tous les pays. Mais l'essentiel, c'est qu'à Madagascar, on ne fait pas la guerre. Ce n'est pas comme dans les pays africains. On est quand même assez calme. On se critique, mais on est quand même des gens, disons, réconciliants. Voilà.
Et cette fête.
Est-ce que ça vous satisfait ? Oui.
Et cette fête d'indépendance, il y a 63 ans, ça changeait largement, on va dire, le système politique pour Madagascar. Donc, est-ce que ça changeait aussi la vie des Malgaches ou au niveau Poutine, c'était pas tellement affecté ?
Non, mais bien sûr, ils ont changé la vie des Malgaches, puisque en 1960, on sortait juste du colonialisme, du système colonialiste. Et pendant ces 63 ans, il y a eu des relations avec beaucoup de pays. Et si vous voulez, je parlerai moi-même des relations avec l'Union soviétique qui a commencé en 1972 avec la révolution socialiste malgache et la charte de la révolution socialiste malgache. Là, on a eu des relations avec les pays socialistes, entre autres avec l'Union soviétique. On a eu des relations au niveau diplomatique à Antananarivo, déjà en 1972, si je ne me trompe, sinon en 73. C'était l'installation de l'ambassade russe à Antananarivo. Mm-hmm. Il y a aussi un consulat au bord de la mer à Tabatav, mais ça n'a pas duré longtemps. Et à Moscou, on a eu aussi des relations diplomatiques, je pense que c'était en 75, si je ne me trompe, mais enfin, les dates, je ne me souviens pas tellement, mais jusqu'à présent, on garde de bonnes relations avec l'Union soviétique. Et pour vous dire, sur la vie des Malgaches, grâce à ces relations avec les pays socialistes, on a pu envoyer des étudiants étudier dans ces pays socialistes, mais pas toujours dans les pays, disons, les pays de l'Ouest, parce qu'avant, c'était très difficile d'obtenir des bourses dans les pays de l'Ouest. Mais avec les relations avec les pays socialistes, c'était plus facile parce que les bourses étaient offertes. Et jusque-là, pour ne citer qu'avec l'Union soviétique, il y a eu plus de 5 000 étudiants qui sont sortis de l'Union soviétique. Il y a aussi les autres pays socialistes d'antan, comme la Roumanie, la Tchécoslovaquie et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, de 1960 jusqu'à maintenant, on peut dire que quand même une évolution. Oui, surtout sur le plan culturel, sur le plan économique, bien sûr, il y a les partenariats, oui, avec beaucoup de pays, et ça a changé quand même la vie des Malgaches. Voilà, les habitations sont devenues plus jolies, les routes, bien sûr, il y a des problèmes de crevasses et tout ce que vous voulez, mais on fait quand même comme on peut, il y a des élargissements de voies routières. Oui, la voie ferroviaire, ça a un peu dégradé, mais on a pu, justement, cette année, reconstruire, oui, les voies ferroviaires. Mmh. Voilà, peut-être, en gros, on peut dire qu'on avance quand même, on fait comme on peut, quoi. Mmh. Oui, les universités, on a pu élargir, on a pu augmenter le nombre d'universités. Et pour vous dire qu'actuellement, vous savez peut-être que moi, je suis enseignante à l'université dans Paramaribo. Oui. Et ces derniers temps, on a eu une relation considérable avec l'université de Chadrinsk. Voilà, actuellement, on peut dire que la route avance, la coopération avance. Nous sommes satisfaits de ce qu'on fait, entre autres, avec l'Union soviétique. Voilà. Enfin, pas l'Union soviétique, mais la Fédération de Russie. Oui.
J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi cette langue et comment évoluez-vous le niveau d'intérêt vers la langue russe dans votre pays.
Alors là, c'est un peu drôle, hein, puisque moi, je n'ai pas choisi cette langue. Mmh. Voilà, justement, je vous disais que pour étudier à l'étranger, c'était très difficile à notre époque. Moi, j'ai eu mon baccalauréat en 1971. Bon, c'était pas encore 72 où on a commencé la révolution socialiste, les relations avec l'Union soviétique, mais c'était encore une période très difficile et je voulais absolument étudier la langue allemande. Mmh. Bon, c'était ce que j'ai voulu depuis le début. Mais j'ai jamais obtenu de bourse pour étudier cette langue dans les pays de l'Ouest. Et comme ça, c'est peut-être le destin ou quoi, mais j'ai su qu'il y avait une bourse pour la Russie. Alors moi, je me suis dit, est-ce qu'en Russie, on peut étudier la langue allemande? Je me dis, bon, mais bien sûr, c'est faisable. Alors je suis allée étudier en Russie. J'étais d'abord à Voronej, en faculté préparatoire. Et comme moi, j'aimais beaucoup les langues, la langue russe m'a plu. Et puis, je pouvais plus rien faire. Hein. J'étais là-bas. Ça m'a intéressée. Et j'ai continué comme ça. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai fait mes études. Et j'ai étudié à la fois l'allemand et le russe.
D'accord. Ah, c'est intéressant, votre histoire.
Et voilà, une fois arrivée à Madagascar, j'étais enseignante au lycée d'abord. J'ai enseigné et l'allemand et le russe. Ensuite, à l'université, uniquement le russe, parce que en allemand, on avait déjà assez d'enseignants. Et en russe, il n'y avait que deux ou trois malgaches. Trois malgaches et deux ressortissants plus. Et voilà, ça fait une idée. Depuis donc 1972 que j'ai enseigné la langue russe. Et jusqu'à présent, puisqu'on ne me lâche pas, on dit, bon, on a toujours besoin de vous. Oui, je suis à la retraite actuellement, mais on ne peut pas me lâcher. On dit, bon, vous restez toujours avec nous. Et je fais ce que je peux avec la langue russe.
Mais aujourd'hui, comment évoluez-vous le niveau d'intérêt vers la langue russe dans votre pays? Est-ce qu'il est augmenté? Est-ce qu'il est le même? Comment vous l'évoluez?
Ah non, il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui s'intéressent à la langue russe. Et ce qui intéresse surtout les étudiants, c'est le tourisme. Parce que là, ils peuvent parler, ils peuvent pratiquer la langue et aussi la traduction. Et évidemment, l'enseignement, pour ceux qui optent pour l'enseignement, ils aiment enseigner la langue russe. Mais les garçons, surtout, ils préfèrent le tourisme. Et nous avons introduit à l'université, c'est pas une filière, mais disons une spécialisation, oui, sur le tourisme lorsque on passe le niveau master. Voilà.
D'accord.
Et on aime bien la langue russe. Oui, excusez-moi, je voudrais encore continuer un peu.
Oh, oui, bien sûr.
Et actuellement, on essaie d'introduire la langue russe à un niveau beaucoup plus bas dans les écoles. Si actuellement, je ne sais pas si vous connaissez le système français, c'est ce qu'on a adopté à Madagascar en classe de seconde. Là seulement, on étudie les langues étrangères 2. Oui, parce que la première langue étrangère obligatoire, c'est l'anglais. Et langue étrangère 2, c'est choix entre allemand, espagnol et russe. Oui, et on voudrait qu'actuellement, on descende un peu au niveau classe de trième. Alors, il y a beaucoup d'intérêt, parce que si on a commencé avec, disons, une vingtaine d'étudiants comme spécialité langue russe, là, nous sommes à plus d'une centaine. Oui, il y a toujours intérêt. Vous voyez pourquoi? Parce que ici, on pense que savoir lire le russe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que l'écriture cyrillique, il n'y a pas beaucoup qui connaissent l'écriture cyrillique. Mmh. Et on s'amuse même dans Facebook à écrire son nom en russe. Et on se donne des pseudonymes comme, disons, Pushkin. Non, vous voyez des choses comme ça.
C'est intéressant.
Je ne savais pas. Oui, c'est intéressant. Ouais. Bon. Il y en a qui signent même, en fait, ce sont nos étudiants, oui, ils signent en russe.
Alors, leur nom,
c'est le... leur nom, oui, et c'est écrit en russe.
D'accord.
Non, il y a beaucoup d'intérêt ici à connaître la Russie, oui, ne pensez pas que nous vous ignorons, pas du tout, nos étudiants sont très actifs. Oui, ils propagent la langue russe, la civilisation russe partout où ils vont.
D'accord.
Ils sont dans tout Madagascar. Oui, c'est Antananarivo qu'on se spécialise en langue russe, mais les étudiants viennent de tous les coins de Madagascar. Voilà.
D'accord.
Et même c'est à Tamatave qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui étudient le russe. Voilà. Mais le hic, c'est que les parents ne trouvent pas d'endroit où loger leurs enfants s'ils étudient le russe en Tananarive. Voilà
d'accord.
Le handicap. Voilà. Sinon, tout le monde aime. Enfin, je ne dirais pas tout le monde, mais il y a une majeure partie d'élèves qui aiment bien le russe.
Et vous savez que dans les actualités récemment, c'est tombé que des langues africaines locales allaient être ajoutées au programme scolaire à Moscou. Et donc, pensez-vous que l'introduction des langues africaines en Russie peut contribuer à l'amitié et au renforcement des relations entre nos pays?
Évidemment. Et vous ne savez peut-être pas, mais en 1900, disons, peut-être c'était en 78. Ludmila Kartachova, vous la connaissez? Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? De langue malgache, à l'Institut d'histoire. Oui, elle a maintenant plus de 80 ans et nous sommes toujours en contact toutes les deux. Elle a eu des étudiants malgaches qu'elle a emmenés à Madagascar pour un stage de toute une année. Et il y a eu des étudiants de Ludmila Kartachova qui ont travaillé chez nous à Madagascar. Ont travaillé à l'agence de presse ici à Madagascar, agence de presse russe. Et c'était les étudiants de Ludmila Kartachova qui ont travaillé ici, de même à l'ambassade de Madagascar.
Merci beaucoup. Et bon, en revenant un peu vers la fête d'aujourd'hui, la journée de l'indépendance à Madagascar, en fait, vous avez dit que vous n'avez pas assisté à la cérémonie elle-même il y a 63 ans, mais vous pouvez peut-être décrire l'ambiance qui régnait dans votre ville et que ressentiez-vous à ce jour-là?
Enfin, en ce qui me concerne, j'aime pas trop aller au stade. Hein, ça, c'est un choix très blanc parce qu'il fait très froid là-bas. C'est au mois de juin, il fait froid. Mais moi, je regarde tout à la télé. Oui. Mais quand j'étais élève, j'allais défiler sur le stade. Ça, on aimait bien parce qu'on était élève, il y avait une bonne ambiance, on allait défiler au stade. Et j'étais aussi, donc, il fut un temps, vers les années 80, j'étais conseillère municipale de la ville d'Antananarivo. Et là, c'était une obligation morale. Même s'il fait froid, si le vent souffle beaucoup, il fallait venir. Voilà. Bon. Non, mais c'est une bonne ambiance. Là, je ne suis pas très loin du stade. Il se passe, disons, une grande festivité. On chante, on danse. Ce matin, c'était la revue militaire. Il y a beaucoup de monde. Le stade est bondé. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et ça, c'est dans tout Madagascar. C'est dans tout Madagascar. Il n'y a pas qu'ici. Alors, ce soir, à la télé, on va diffuser tout ce qui s'est passé dans les villes. Mais chaque année, c'est beau, quoi. C'est des événements.
D'accord, des fêtes, je vois.
Pour tout le monde, oui, tout le monde pavoise en général.
Oui, on a parlé comment la vie des Malgaches a changé après l'indépendance. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, quelle est aujourd'hui l'image de la France au sein de la population malgache?
Bon, la France, pour nous, avant, c'était l'idéal. Mais là, on sait, on comprend que la France, ce sont les colonisateurs, c'est pas tous les Français, évidemment, mais le gouvernement français... Oui, qui sont toujours détenteurs de leur esprit colonisateur. On sait, mais on ne peut pas se détacher de la France sur le plan politique et ce n'est pas l'intérêt des Malgaches non plus, parce qu'il y a des relations diplomatiques avec la France, de même avec tous les pays. Oui, les relations diplomatiques, c'est toujours les relations diplomatiques. Et la langue française, c'est la langue qui nous permet de communiquer avec les étrangers. Donc, on doit toujours maîtriser la langue française. Alors, c'est une langue obligatoire. C'est une langue obligatoire dans les écoles. Et l'enseignement se fait en français à l'université, composé aussi avec la langue malgache. Les livres sont édités en français. Oui, il y a des livres malgaches. Et ça, sont des livres qui parlent de la langue malgache, de l'histoire de Madagascar. Mais sinon, pour étudier la science, les mathématiques, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est encore écrit en français. Donc, voilà, on doit connaître la langue française.
Oui, mais comme vous avez mentionné, le système colonial dans son sens classique n'existe plus, mais on entend parler aujourd'hui beaucoup de genre du néocolonialisme. Que pensez-vous, que faut-il pour mettre un terme à cette dépendance, cette économique peut-être vis-à-vis de l'Occident dans le contexte d'aujourd'hui?
Non, mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Moi, personnellement, je dirais qu'il faut tout simplement... de s'ouvrir davantage vers les autres pays. Il n'y a pas que les pays occidentaux. Moi, je suis pour les liens avec les pays comme l'URSS. Pourquoi pas? Enfin, l'URSS, excusez-moi.
Non, je comprends.
Oui, actuellement, c'est la Fédération de Russie. J'ai vécu en Russie. Je sais ce que l'URSS a fait. Je connais l'histoire de votre pays. Oui. Et si on arrive à avoir des liens assez étroits avec vous, moi, je pense qu'on pourra aller de l'avant mieux que maintenant. Mais le gouvernement actuel a son choix. Et ça n'empêche que la Russie a aussi des liens assez étroits avec Madagascar. Oui, avec la présence de la diplomatie. Nous avons surtout des liens avec vous sur le plan militaire et sur le plan culturel. Sur le plan économique, pas tellement. Et je pense que c'est surtout le plan économique qu'il faudra développer davantage. Et je pense qu'actuellement, Madagascar et la Russie sont en train de voir comment la Russie pourra envoyer des biens consommables pour Madagascar. Je crois qu'ils sont en train actuellement d'en parler. Oui, mais les liens avec la Russie, bon, ne me demandez pas que c'est pas inutile. Au contraire, moi, je serais très contente s'il y en avait, si on ne restait pas seulement sur le plan culturel, mais surtout sur le plan scientifique, sur le plan économique, ce serait formidable. Oui.
D'accord, je vois, merci. Et à votre avis, oui. Quel rôle pourrait jouer la Russie aujourd'hui dans le renforcement de la souveraineté de l'Afrique en général?
Ah, il y a le sommet Russe-Afrique qui va se tenir à Saint-Pétersbourg cette année. Il aura, les liens seront beaucoup plus solides. Oui, et je pense que Madagascar va participer à cette réunion. Notre président Radzil a déjà été présent à la première réunion et je ne vois pas pourquoi il ne se présentera pas à la deuxième réunion. Et oui, c'est une bonne initiative de la part de la Russie, je suppose. Et moi, j'en suis très fière personnellement. Hein, parce que, enfin, jusque-là, on ne connaissait que l'Occident et surtout France-Afrique. Et maintenant, il y aura Russie-Afrique. Alors ça, c'est très bien. Et il y a pas mal de pays qui ont des liens diplomatiques avec la Russie. Il y a pas mal de pays qui ont eu des étudiants sortant de la Russie. Et on peut, justement, par le biais de ces étudiants, renforcer les liens économiques si le sommet se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien.
D'accord.
Voilà, surtout actuellement, Et surtout avec le contexte géopolitique actuel, on a tout intérêt à travailler avec la Russie.
Et vous savez, nous parlons aujourd'hui beaucoup aussi de nouveau monde multipolaire. Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans ce nouveau monde émergent multipolaire?
L'Afrique a toujours été sous la coupe des anciens colonisateurs. Et maintenant, avec le monde multipolaire, c'est le moment ou jamais pour l'Afrique de s'affirmer, de sortir du joug, si on peut encore le dire, du joug colonialiste, parce que le néocolonialisme, ça existe toujours en Afrique. Voilà, on est toujours dépendant. Et peut-être qu'avec l'émergence de ce monde multipolaire, c'est le moment ou jamais de s'affirmer. Oui, et avant, il n'y a eu que la Banque mondiale, le FMI et tout ça. Actuellement, il y a le BRICS et c'est déjà un moyen pour changer d'orientation ou pour s'élargir, pour avoir beaucoup plus d'ouverture, non seulement axée sur les bailleurs de fonds habituels, mais il y a BRICS, ouais, si vous voulez. Et c'est toujours ce qui manque en Afrique, c'est l'économie qu'on n'arrive pas à développer. On n'arrive pas, disons, à se développer, mais parce qu'on manque beaucoup de moyens. On a peut-être les ressources minières, oui, mais on n'arrive pas à les exploiter. Sinon, si on les exploite, c'est toujours l'esprit colonialiste qui les exploite, quoi, si vous voulez, mais pas pour le bien du pays. Alors, pour en revenir à votre pays, ben, c'était pas comme au temps de l'Union soviétique où tout appartenait à l'État. Mais là, ben, beaucoup de choses appartiennent au privé. Et justement, ces entreprises privées, elles travaillent pour elles. mais pas pour le pays.
Et vous avez mentionné les BRICS. Là, on voit aussi l'intérêt augmenter, on va dire, beaucoup de pays africains ont déjà manifesté leur envie de rejoindre les BRICS dans le futur. Mmh. Et comment vous voyez les relations entre Madagascar et les BRICS? Qu'est-ce que les BRICS peuvent donner à Madagascar, par exemple?
Comme je vous ai dit, il faut tout simplement une ouverture. C'est un choix politique. Mmh. On en parle beaucoup dans les journaux, mais c'est un choix au niveau gouvernemental. Si on arrive à changer d'orientation, ou peut-être pas complètement d'orientation, mais s'ouvrir, faire aussi le côté BRICS, ce sera déjà bien. Voilà, on verra le choix du gouvernement, c'est tout. Les citoyens lambda, ben, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent tout simplement qu'écrire dans les journaux, c'est tout. Mm. Enfin, écrire leurs idées, leurs pensées dans les journaux, c'est tout, mais c'est le gouvernement qui décide, c'est le Parlement. Mm-hmm. Voilà, ça dépend de tout cela. Donc, il faut lutter pour avoir de la place au Parlement et en parler et à ce propos.
C'était Lanto Ramaefarizoa, enseignante-chercheur à l'université d'Antananarivo pour Spoutnik Afrique. À l'occasion des 63 ans de l'indépendance de Madagascar, elle a décrit l'impact de l'accession à la souveraineté sur la vie des habitants de cet État insulaire. Madame Ramaefarizoa est également revenue sur les relations diplomatiques entre Antananarivo et Moscou et sur l'intérêt grandissant des jeunes malgaches pour les études en Russie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Maliba FM depuis Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Le Zimbabwe vit depuis 20 ans sous le poids des sanctions imposées notamment par les États-Unis. Plusieurs hommes d'affaires et responsables politiques dénoncent ces restrictions américaines et européennes qui pèsent sur l'économie zimbabwéenne. Par exemple, interdit aux banques d'accorder des prêts à ce pays africain. Mises en place pendant la gouvernance de Robert Mugabe, ces sanctions occidentales n'ont pas été revues depuis et Washington ne semble pas vouloir changer d'approche à l'égard du Zimbabwe. Pour Spoutnik Afrique, Martin Zarare, directeur exécutif de Citizens Against Economic Sanctions, citoyens contre les sanctions économiques en français, a analysé les conséquences de ces restrictions imposées par les Occidentaux au Zimbabwe. Écoutons-le tout de suite. Bonjour, j'aimerais vous demander de parler un peu de vous et de vos activités à nos auditeurs.
Firstly, my name is Zarare Martin.
Tout d'abord, je m'appelle Zarare Martin. Je suis le directeur exécutif d'une organisation appelée Citizens Against Economic Sanctions, citoyens contre les sanctions économiques. Il s'agit de citoyens zimbabwéens qui s'opposent aux sanctions économiques illégales imposées à notre pays par l'Amérique et par, je peux le dire, ses supplétifs européens. Notre organisation a découvert que ces sanctions nous affectaient réellement. Nous nous sommes dit qu'il nous fallait monter à bord et être la voix du peuple, la voix des sans-voix, la voix des Zimbabwéens, des gens dans nos rues, dans nos communautés, dans nos zones rurales, des vrais gens qui sont affectés par ces sanctions. Nous sommes une organisation qui se déplace dans toutes nos provinces, dans tous nos villages, nos villes, nos districts, pour éduquer les gens, les sensibiliser, les informer de la réalité de ces sanctions. Car lorsqu'ils ont imposé ces sanctions au Zimbabwe, ils ont dit qu'elles ne visaient que quelques personnes, nos quelques dirigeants. Mais lorsque nous avons fait des recherches sérieuses, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une désinformation très grave. Ces sanctions sont économiques. Elles visent notre gouvernement, elles visent notre économie et il faut que les gens soient informés, se réveillent pour comprendre ce qui se passe réellement.
Et combien de personnes de l'organisation a-t-elle touché?
Notre organisation a touché des centaines de milliers de personnes. Nous sommes maintenant dans les 10 provinces de notre pays et même dans les districts de notre pays. Notre organisation s'est développée. Près d'un million de personnes ont été touchées par ce programme et il progresse. Et les gens commencent à dire « Vraiment, nous ne savions pas que cela se produisait. Nous ne le savions pas parce que lorsque nous allons sur les médias sociaux, on nous dit qu'il n'y a pas de sanctions au Zimbabwe, que c'est la corruption. Mais aujourd'hui, plus d'un million de personnes se réveillent et l'Amérique va bientôt se rendre compte que son char touche à sa fin. Les gens se rendent compte de la vérité.
J'ai lu dans certains médias que vous avez signé une pétition adressée au gouvernement américain, au Royaume-Uni et à l'ONU pour la levée de ces sanctions. Des progrès ont-ils été accomplis ?
Nous avons en fait entamé ce processus le 25 octobre de l'année dernière en organisant une manifestation citoyenne massive devant l'ambassade américaine que nous avons assiégée à Harare. Plus de 10 000 personnes s'y sont rendues à pied, en bus. Une fois sur place, nous avons signé une pétition. Près de 5 000 personnes ont signé une pétition ce jour-là pour dire que ces sanctions doivent être levées immédiatement parce qu'elles sont illégales. L'Amérique n'a pas le droit de sanctionner notre pays parce que nous sommes un pays indépendant. Leur politique étrangère affecte tout ce que nous faisons. Après avoir fait cela, nous nous sommes assis avec notre équipe et nous avons dit « Les habitants du Zimbabwe dans nos provinces disent « Mais vraiment, que devrions-nous faire ?» Nous avons dit que nous devions continuer à faire pression sur les Américains, sur l'Union européenne et sur les Nations unies pour qu'ils comprennent que ce problème nous affecte. Nous sommes donc en train de recueillir des signatures. Nous avons atteint presque 400 000 signatures et nous sommes en train de mettre en place les ressources et toute la logistique pour pouvoir maintenant soumettre ces pétitions aux Nations unies, à l'ambassade américaine à Harare, au bureau de l'Union européenne à Harare, à l'ambassade britannique, à toutes les capitales européennes qui sont ici, qui parrainent ces sanctions au détriment de notre pays.
Avez-vous envoyé la pétition et avez-vous reçu une réponse ?
Yes. The first one we did submit.
Oui, nous avons déposé la première. Ces gens sont tellement arrogants qu'ils n'ont même pas répondu à la première. Mais vous savez comment ils sont. Nous allons continuer à soumettre ces pétitions. Mais nous savons que lorsque nous soumettrons celles-ci à l'Union européenne, au bureau des Nations unies ici et dans d'autres capitales, nous savons qu'ils commenceront à s'en rendre compte. Ils savent déjà que les gens commencent à se poser des questions, à se réveiller et à comprendre ce qui se passe réellement. Nous continuerons à faire pression sur eux et nous savons qu'ils réagiront à un moment ou à un autre.
Et comment les sanctions occidentales imposées au Zimbabwe ont-elles affecté la vie quotidienne des citoyens ordinaires ?
Nous avons des problèmes. Nous avons de très gros problèmes parce que ces sanctions sont réelles. Ces sanctions sont économiques. Elles touchent notre économie. Et les choses ne vont pas bien comme elles allaient avant que ces sanctions ne soient imposées. Notre pays était si paisible, tout allait bien. Mais aujourd'hui, à cause de ces sanctions, notre vie quotidienne a été affectée. C'est la première chose. Deuxièmement, avant les sanctions, notre espérance de vie était d'environ 55 ans. Notre secteur éducatif était le meilleur d'Afrique et même du monde. Les diplômés de nos universités étaient réclamés partout. Les pays. Après cela, nous avions de l'emploi. Le taux de chômage au Zimbabwe était peut-être de 4,5 ou de 10% avant les sanctions, parce que les industries fonctionnaient, les mines fonctionnaient, le secteur agricole fonctionnait. Mais lorsque les sanctions sont arrivées, les choses se sont effondrées. On peut donc dire que beaucoup de choses sont négatives aujourd'hui à cause des sanctions. Pourquoi ? Parce que ces sanctions sont économiques. Elles visent notre économie et non une seule personne. Et quand on regarde cela, on constate que notre système de santé est affecté. Comme je l'ai dit, notre agriculture est touchée, nos industries sont touchées, notre vie quotidienne est affectée. Nous sommes donc en difficulté. Beaucoup de choses se sont produites. Comme je le disais, notre système éducatif produisait les meilleurs diplômés et tout le monde se battait et se bat encore pour les avoir. La fuite des cerveaux a donc réellement affecté notre pays. Un grand nombre de personnes instruites, tout le capital humain dont nous avons besoin, ont dû quitter notre pays. Et à cause des sanctions, ils sont attirés par l'Angleterre, ils sont attirés par l'Amérique, l'Écosse, l'Australie, l'Afrique du Sud. Et ce sont ceux qui imposent les sanctions qui profitent de l'éducation et de la sueur que notre gouvernement a investi dans l'éducation de notre peuple. Ils les attirent là-bas. Ils en profitent et nous sommes perdants. Tout va mal à cause de ces sanctions. Et puis, il y a l'inflation qui se produit parce que notre dollar a été très affecté par ces sanctions. Je veux dire que les prix augmentent tous les jours. Notre peuple souffre et tout va mal. Ces sanctions nous ont vraiment affectés et nous souffrons, mon ami. Nous souffrons.
C'est terrible. Comment décririez-vous les réalisations du Zimbabwe en termes de développement?
We are a very resolute people.
Nous sommes un peuple très résistant. Les Zimbabwéens sont des gens qui se tiennent debout et qui travaillent dur. Nous sommes des travailleurs acharnés en général. Vous serez surpris quand vous reviendrez ici. Vous ne croirez pas que ce pays est soumis à des sanctions aussi lourdes et à la reprise de ces sanctions. Notre pays se développe. Le secteur de la construction est en plein essor. Vous savez, si vous allez à Harare, si vous allez dans toutes les régions du Zimbabwe, même dans les communautés rurales, vous trouverez des établissements qui sont en train d'être construits. Et nos industries tournent. Nous nous sommes dit, si nous restons sans rien faire, ayant décidé que nous sommes de toute façon soumis à des sanctions, nous mourrons. Nous nous sommes dit, réveillons-nous, défendons notre pays, défendons la souveraineté. Le président de la Deuxième République, son Excellence Camarade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, dirigeant du parti ZANU-PF, a dit que nous devons développer notre pays nous-mêmes. Nous avons donc des barrages partout, nous avons des routes partout qui ont été construites en trouvant les ressources à l'intérieur de notre pays. Parce qu'avec ces sanctions, nous ne pouvons pas obtenir de prêts du FMI, de l'institution de Bretton Woods, des clubs de Paris ou de toute autre forme d'aide. Tout vient de l'intérieur. Notre développement est donc en marche. Et regardez ça. La plus grande usine d'acier d'Afrique a été détruite par ces sanctions, mais nous construisons une autre usine géante. Regardez notre renouveau agricole. Nous avons produit des millions et des millions de tabac que même les Blancs, lorsqu'ils étaient ici, n'avaient jamais produit. Mais nous l'avons fait au cours de la dernière saison. Nous sommes désormais autosuffisants en blé. Nous ne pouvons pas importer. D'autres importent de chez nous. Vous pouvez donc constater que notre développement est constant et que nous allons de l'avant.
Et comment le Zimbabwe a-t-il réussi à se développer malgré les sanctions?
Comme je l'ai déjà dit, nous sommes un peuple très résistant. Nous sommes des gens qui défendront la souveraineté de leur pays, le Zimbabwe. Nous sommes patriotes. Même lorsque les Blancs étaient ici, c'est nous qui travaillions dans les mines, c'est nous qui travaillons dans les fermes, c'est nous, le peuple du Zimbabwe, qui travaillons dans les entreprises. Et c'est eux qui ont fait la plus grosse erreur parce qu'ils nous ont enseigné. Et l'éducation que nous avons reçue d'eux nous a permis de développer notre pays. Nous développons maintenant notre pays et nous sommes très reconnaissants envers des pays comme la Russie. Vous savez, la Russie a été à nos côtés depuis l'époque de la lutte pour la libération et elle est aujourd'hui avec nos amis. Nous sommes très reconnaissants envers des pays comme la Chine. La Chine a été avec nous et elle est toujours avec nous. La Russie est toujours avec nous et ses amis nous ont aidés. Vous savez, avec leur technologie, avec tout, et nous allons de l'avant. Et l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que nous avançons sans aucun financement de la part des donateurs parce qu'ils ont tout arrêté. Ils ont même donné des instructions à toutes ces institutions financières par le biais de cette directive pour qu'elles ne nous aident pas. Nous allons donc de l'avant et nous reconstruisons notre pays. Et vous savez, c'est un choc pour eux de voir le Zimbabwe toujours debout après 22 ans de sanctions. Et ils imaginent tous les moyens pour nous détruire. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le Zimbabwe va organiser des élections en août. Et c'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit qu'il propose de nouveaux autres mécanismes pour affaiblir notre économie, pour dévaluer notre dollar, afin que le peuple zimbabwéen puisse se soulever à nouveau contre le gouvernement. Mais le peuple zimbabwéen se réveille pour voir qui est vraiment en train de nous détruire.
Et de quelle manière les sanctions ont-elles affecté les États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement ?
Ces sanctions ont affecté beaucoup de gens, beaucoup de nos pays voisins. Lorsque ces sanctions ont commencé, beaucoup de gens ont fui le Zimbabwe en masse pour se rendre dans les pays voisins, dans d'autres pays et même en Europe. Mais lorsque ces pays se développent, ils sont également affectés par l'afflux d'étrangers sur leur propre territoire. Leurs services sociaux sont affectés, leurs cliniques, leurs hôpitaux. Nous sommes voisins dans cette partie de l'Afrique. Et si l'un des voisins est blessé, tous les autres pays en souffrent. Ces sanctions n'affectent donc pas seulement le Zimbabwe, mais aussi ses voisins. Leurs économies ralentissent également parce qu'elles auraient pu bénéficier du secteur agricole du Zimbabwe, qui est le grenier de l'Afrique. Ils bénéficient également des exportations du Zimbabwe, qui était une puissance industrielle. Mais aujourd'hui, ils n'obtiennent plus tous les matériaux qu'ils avaient l'habitude d'importer du Zimbabwe. Ils importent maintenant peut-être d'ailleurs parce que nos grandes industries ont été touchées. Comme vous le savez, le Zimbabwe est le pays qui a le plus souffert de ses ressources minérales et lorsque ces sanctions affectent notre production, tout le monde est touché.
Alena Douane, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'impact des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l'homme, s'est rendue au Zimbabwe pour évaluer l'impact des sanctions sur le pays. Elle a conclu que les sanctions avaient aggravé les problèmes économiques préexistants du pays. Pourquoi ces sanctions restent-elles imposées malgré la condamnation internationale des sanctions unilatérales ?
The Americans are bullies. The Americans are very bad people.
Les Américains sont des brutes. Les Américains sont de très mauvaises personnes. Et les Américains vous diront qu'ils ont imposé des sanctions au Zimbabwe en raison des violations de droits de l'homme. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle ils ont sanctionné notre pays. La première chose, c'est que les Américains ont sanctionné notre pays parce qu'on a réussi notre programme de réforme. Vous savez, nous avons fait la guerre au Zimbabwe pour combattre les impérialistes, les envahisseurs de notre pays. Nous avons gagné cette guerre. Elle a été sanglante. Nous avons vaincu les Britanniques. Lorsque nous avons pris nos terres et les avons redistribuées au peuple zimbabwéen, celui-ci a produit une récolte exceptionnelle de blé et de tabac. Vous pouvez en voir les fruits aujourd'hui. Les Américains et les Britanniques du monde blanc ont donc découvert que si le programme de réforme agraire du Zimbabwe réussissait, le monde entier commencerait à faire exactement ce que le Zimbabwe a fait. Lorsqu'Alena Douan s'est rendue au Zimbabwe, elle a conclu que ces sanctions avaient effectivement aggravé la vie quotidienne du peuple zimbabwéen et les sanctions entravent réellement les droits de l'homme du peuple zimbabwéen. Elle a rédigé un rapport qui a été publié et qui affirme que ces sanctions sont illégales. Elles doivent être levées car l'Amérique n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, les Américains maintiennent leur position car ce sont eux qui contrôlent les Nations Unies. Il est dommage que cela se produise aux Nations Unies et que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit impuissant face aux Américains. Regardez ce que les Américains ont fait à l'Irak. Regardez ce qu'ils ont fait à l'Afghanistan. Et l'Amérique dit qu'elle défend les droits de l'homme du peuple zimbabwéen. Deuxièmement, l'Amérique ne combat encore parce qu'elle dit que si le programme de réforme agraire du Zimbabwe réussit, l'Afrique du Sud s'y joindra également. Et je veux avertir l'Amérique aujourd'hui que le peuple sud-africain vient chercher sa terre. Ils vont prendre leur terre. Ils vont prendre leur terre. Les habitants du Kenya, les Maasai du Kenya, voient les succès du programme de réforme agraire zimbabwéen. Ils le constatent tous les jours. Les Maasai viennent chercher leur terre également. Même les Américains, les Indiens américains viennent aussi pour leur terre. Tout le monde vient chercher sa terre parce qu'au Zimbabwe, nous avons donné le temps et le monde voit que c'est possible, même avec les sanctions. Le monde se réveille et dit que nous devons être indépendants. Nous avons besoin de notre souveraineté. Je voudrais remercier la Russie. Je voudrais remercier le groupe des BRICS qui se met en place pour mettre fin à l'hégémonie du dollar américain. Ce monde sera multipolaire parce que les choses changent. Ce dollar américain, personne ne l'utilisera. Il est en train d'être jeté à la poubelle et les Américains s'en rendent compte. Les Américains peuvent voir que les BRICS arrivent et que le Zimbabwe rejoint la communauté des BRICS. Et lorsque nous rejoindrons la communauté des BRICS, nous ferons du commerce de notre propre monnaie dans le rouble, dans le yuan et dans les monnaies du monde entier. Nous remercions donc la communauté des BRICS d'être venue nous défendre et nous la rejoignons. Le monde s'élève, le monde s'élève.
C'était Martin Zarare, directeur exécutif de Citizens Against Economic Sanctions pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a analysé les conséquences néfastes de 20 ans de sanctions occidentales pour le Zimbabwe. Il a ensuite salué la prise de conscience de la population qui commence à se réveiller face à ces sanctions illégales. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. 20 ans. 20 ans déjà que le footballeur camerounais Marc-Vivien Foué nous a quittés. Le 26 juin 2003, lors de la demi-finale de Coupe de Confédération, le Cameroun affrontait la Colombie pour une place en finale de cette compétition. Malheureusement, la qualification des Lions Indomptables pour ce dernier match a perdu toute son importance. Marc-Vivien Foué s'est effondré pendant le match. Le joueur qui était âgé de 28 ans est décédé d'une crise cardiaque liée à une maladie du cœur qui n'avait pas été détectée. Son décès, qui a suscité une forte émotion dans le monde du football, a fait bouger les choses dans le domaine de la santé et du suivi médical des joueurs. Dès l'Euro 2004, l'UEFA a renforcé les examens médicaux des joueurs et mis en place de nouvelles règles, dont la présence d'une ambulance équipée d'un défibrillateur, ce qui aurait pu sauver la vie du joueur camerounais. En Russie, le suivi médical des athlètes est pris très au sérieux. Les clubs professionnels font subir à leurs joueurs des tests deux fois par saison. Les footballeurs des équipes de première division russe sont d'ailleurs actuellement en train de faire le tour des médecins. Ils les retrouveront ensuite en février, juste avant la fin de la longue trêve hivernale. Toutefois, il est bon de s'interroger sur les structures existantes en Afrique. Au micro de Spoutnik Afrique, Willy Kak, journaliste sportif camerounais, a mis en lumière les différences en matière d'équipement et de suivi sur le continent africain et le rôle que pourrait jouer la Russie pour aider l'Afrique à faire des progrès dans ce domaine. En Europe, des mesures ont été prises pour prévenir ce type d'accident. Des examens médicaux sont désormais obligatoires avant le début de chaque saison et chaque club professionnel français doit être doté d'un défibrillateur. En Russie, ces tests ont lieu deux fois pendant la saison sportive. Quelles mesures existent actuellement en Afrique dans les championnats professionnels ?
Bah écoutez, il y a de plus en plus de mesures qui sont prises par les fédérations africaines de football pour renforcer à tous les niveaux, que ce soit la médecine sportive. On a, pour le cas du Cameroun, à ce que je sache, à chaque match, on a un médecin traitant qui est programmé. On a une ambulance médicalisée. C'est vrai qu'on peut émettre encore des réserves sur la qualité de ces ambulances. Bon, les équipes en elles-mêmes essayent aussi de prendre des dispositions en s'attachant les services de médecins sportifs qualifiés et en essayant aussi d'avoir le strict minimum pour les premiers secours. Bon nombre des équipes aujourd'hui ont une trousse de secours assez fourni. Bon, on est loin quand même des standings européens, ça il faut le reconnaître, parce que elles sont encore très peu nombreuses, les équipes en Afrique subsahélienne, notamment au Cameroun, qui peuvent avoir leur propre médecin traitant. Généralement, elles essaient de travailler avec les médecins que la fédération mais à leur disposition, mais la plupart des équipes ont un kinésithérapeute qui accompagne l'équipe au quotidien et qui intervient lorsque un joueur est victime soit d'un bobo, est victime d'une blessure. Mais il faut avouer encore que le chemin, il est long. Hein. Le chemin, il est long. On a vu des joueurs décédé sur les terrains de jeu faute de premiers secours, parce que même les ambulances dites médicalisées qui sont mises à la disposition des uns et des autres pendant les championnats professionnels, c'est vraiment, on est loin des standings européens, comme je le disais. On est loin des standings européens. Moi, j'ai eu la chance, un de ces quatre, de rentrer dans l'une de ces ambulances. C'est le strict minimum. Déjà que dans ces ambulances, on ne peut même pas procéder à la petite chirurgie. Or, l'objectif de ces ambulances, c'est de pouvoir déjà produire les premiers soins, quelle que soit la qualité de la blessure. Donc, il y a énormément de travail à faire encore pour les mesures qui sont actuellement prises quant à la médecine sportive dans certains de nos pays, notamment le cas du Cameroun.
Et existe-t-il des différences entre pays africains dans ce domaine ?
Ben, il existe des différences. Hein. Vous savez que quand on parle de football, quand on parle de professionnalisme, c'est un professionnalisme à plusieurs étages. Selon qu'on soit en Afrique subsahélienne, ou qu'on soit en Afrique du Nord. Vous savez que l'Afrique maghrébine est un peu plus développée quand on parle de football. Et donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a également des manquements, mais il y a des différences notoires entre les championnats professionnels des pays maghrébins et les championnats dits professionnels des pays subsahéliens. Il existe énormément de différences. Quand, par exemple, l'une des équipes maghrébines vient disputer un match de Coupe africaine avec les équipes de l'Afrique subsahélienne, on voit que le gap est énorme. Le gap est énorme, que ce soit au niveau des primes de match, que ce soit même au niveau des conditions dans lesquelles les uns et les autres se déplacent. Donc, il y a énormément de différences entre pays africains pour ce qui est de la médecine sportive. Beaucoup reste encore à faire pour les pays de l'Afrique noire. Beaucoup a déjà été fait du côté de l'Afrique dite blanche, l'Afrique du Nord. Mais à chacun de ces niveaux, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. On a vu aussi dans certains stades du côté de l'Afrique du Nord des joueurs souffrir sur l'aide de jeu. Et, bon, je n'ai pas souvenir d'un joueur qui soit décédé sur un terrain de jeu en Afrique maghrébine. Mais je peux vous dire quand même que les différences, il en existe et le gap, il est énorme hein, entre la façon dont les choses se font du côté de l'Afrique subsahélienne et la façon dont les choses se font du côté de l'Afrique maghrébine.
Et selon vous, comment la Russie pourrait aider les pays africains à améliorer les infrastructures déjà existantes ?
Ben, comment la Russie peut-elle aider l'Afrique déjà par des partenariats ? Des partenariats, et moi je suis de ceux qui aujourd'hui militent pour un partenariat solide hein, entre la Russie et les pays africains. J'aurais bien aimé que certaines fédérations, notamment les fédérations africaines, s'allient à la Fédération russe de football pour essayer de partager et même de bénéficier du know-how de la Russie, qui pour moi est l'une des puissances occidentales qui se démarque par la façon dont les choses sont faites de ce côté-là. Donc la Russie peut véritablement aider l'Afrique par des partenariats qui pourraient se nouer entre nos différents États, entre nos fédérations sportives, mais aussi entre les clubs en eux-mêmes. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les clubs africains n'essayent pas de nouer des partenariats avec les clubs russes qui sont assez structurés et une structuration dont on peut s'en inspirer. On sait que du côté de la Russie, on a de très grands clubs. Moi, j'ai eu la chance d'être en Russie, donc j'ai pu quand même être au fait d'un certain nombre de choses dans le football russe. Donc la Russie serait un très grand allié pour l'Afrique et je pense que ce serait du pain béni véritablement pour l'Afrique que de bénéficier du soutien de la Russie sur le plan de la santé sportive. Parce qu'on sait déjà que même ne serait-ce que dans la formation, les médecins sportifs russes sont très bien formés. Pourquoi ne pas aussi organiser des séances de formation, de recyclage même de nos médecins sportifs? Pourquoi ne pas organiser des séminaires, des forats de médecine sportive auxquels participeront les médecins sportifs africains qui nous feraient ainsi bénéficier du savoir-faire qu'ils auraient hérité de la Russie.
C'était Willy Kak, journaliste camerounais pour Sputnik Afrique. À l'occasion des 20 ans du décès du footballeur camerounais Marc-Vivien Fauré, il a mis en évidence à notre micro les différences en matière de suivi médical des joueurs de foot en Afrique et la contribution que la Russie pourrait apporter au continent africain pour améliorer les infrastructures déjà en place. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite en attendant à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.